Millau, ça c'est dans le Gard. La Lozère est également touchée, la Corse donc. Et il va encore pleuvoir aujourd'hui avec des rafales de vent. Sur le reste du pays, bon, c'est plus calme, certes, mais la France est coupée en deux. Moitié ouest du pays, donc du Cotentin jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, en passant par le Limousin, la Vendée, l'Occitanie. Bah là, on a un ciel couvert avec des pluies tout au long de la journée. Et puis sur la moitié est, des Hauts-de-France jusqu'à la vallée du Rhône. Là, on a beaucoup de brouillard ce matin sur l'Alsace et la Bourgogne. Et puis cet après-midi, on va retrouver un temps plus calme, avec un ciel quand même assez voilé. C'est le retour des gelées aujourd'hui, avec moins 5 degrés à Annecy, moins 2 à Belfort. Et cet après-midi, des températures plus fraîches que ces derniers jours. 4 degrés à Strasbourg et Colmar, 12 pour Paris et 16 pour Nice et Ajaccio.
Merci Anissa Dadi, bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le lundi 19 janvier, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Le droit à l'aide à mourir de retour au Sénat à partir de demain, un texte qui fait toujours polémique dans ce journal. Vous entendrez l'inquiétude des congrégations religieuses, peut-être un jour obligées d'appliquer le suicide assisté au mépris de leurs convictions et de leur foi. Reportage auprès des petites sœurs des pauvres dans un instant. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Espagne, au moins 39 morts après une collision entre deux trains en Andalousie. Hier soir, le Premier ministre espagnol évoque une nuit de profonde douleur. Le budget 49.3 ou ordonnance? Conseil des ministres exceptionnel pour trancher ce matin, avec l'objectif d'adopter ce budget 2026 qui consacre des dépenses en hausse dans une économie en berne. Hors de question également de se laisser faire sur la question du Groenland face à Donald Trump. Emmanuel Macron pousse au déclenchement de l'instrument anti-coercition prévu par les 27 en cas de grave crise économique. De quoi parle-t-on? Réponse dans un instant. Votre invité à 8h10 ce matin. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous venez d'en parler face aux États-Unis, l'Europe vise un test décisif. Alors jusqu'où doit-on aller justement dans ce bras de fer et même dans cette guerre commerciale? On posera la question à notre invité ce matin, le député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée, Sébastien Chenu. À tout à l'heure.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un sujet extrêmement sensible qui revient demain au Sénat. Le projet de loi sur la fin de vie, dont le texte a été profondément modifié en commission par les sénateurs. L'aide à mourir est ainsi devenue une assistance médicale à mourir, avec des conditions bien plus strictes. Mais pour les opposants, le problème reste entier. Un établissement qui refuserait de s'y conformer s'exposerait à des poursuites.
Mais c'est bien ce qui inquiète les congrégations hospitalières tenues par des religieuses qui se retrouveraient forcées d'aller contre le vœu de protéger la vie.
Dans le JDD hier, l'une d'elles alertait: si la loi est votée, nous devrons partir. Or, ces congrégations hospitalières sont essentielles dans le paysage médical français. Comme par exemple les Petites Sœurs des Pauvres, qui accueillent des milliers de personnes âgées en fin de vie de par le monde. Reportage dans l'un de leurs EHPAD à Versailles, Cyril de la Morinerie.
Madame Limbourg?
Oui.
Nous voilà.
Germaine, 94 ans, nous accueille le sourire aux lèvres dans sa chambre ouverte sur un jardin. Arrivée ici il y a 2 ans et demi pour y vivre les derniers moments de sa vie, elle ne comprend pas que l'on puisse peut-être bientôt légaliser en France l'aide à mourir.
La fin de vie ici, c'est une vie qui continue. On peut aller jusqu'à la fin de vie quand on est bien accompagné.
Pour vous, la vie est sacrée ?
Bien sûr.
Dans cet établissement tenu par les Petites Sœurs des Pauvres, l'équipe médicale veille jour et nuit sur les personnes âgées. Madeleine, aide-soignante, a vu de nombreux résidents reprendre goût à la vie.
Des fois, quand ça arrive que le résident dit « je veux partir, je suis fatigué », mais après, quand ils sont bien accompagnés, ils changent d'avis. Non, je pourrais jamais donner la mort. Jamais de la vie.
Et cette proposition de loi sur la fin de vie fait naître de vives inquiétudes à Sœur Marie-Christine, mère supérieure de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres à Versailles.
Elle nous inquiète parce qu'elle est assez coercitive. C'est difficile de trouver un sens pour accompagner la vie, pour que ça se termine comme ça, de façon aussi brutale. En tout cas, il faut qu'on fasse tout ce que nous pouvons pour que nous gardons notre... c'est une clause de conscience, tout simplement.
La congrégation des Petites Sœurs des Pauvres entend continuer sa mission, accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle dans le respect et la dignité.
Cyril de la Morinerie.
L'autre grand débat cette semaine, c'est le budget de l'État. Après 3 mois de négociations et de débats, le gouvernement s'apprête à passer en force.
Mais avec quelle méthode? Ordonnance ou 49.3, rien n'est exclu, dit Maud Brejon, la porte-parole du gouvernement. Alexis de la Fontaine, le Premier ministre, doit trancher aujourd'hui lors d'un conseil des ministres exceptionnel.
En effet, ce Conseil des ministres donnera l'autorisation au gouvernement d'activer une de ces deux méthodes dans les prochains jours. Selon les informations d'Europe 1, la piste privilégiée reste le 49-3, une solution poussée en coulisses par Emmanuel Macron. C'est moins martial que les ordonnances, justifie un député Renaissance. En revanche, cette hypothèse est rejetée par l'opinion publique. 59% des Français s'opposent au 49-3. Idem au Rassemblement National et à la France Insoumise, qui déposeront une motion de censure. Mais le Parti Socialiste pourrait ne pas la voter, annonce Olivier Faure sur TF1.
La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre.
Si le soutien des socialistes semble acquis, Sébastien Lecornu doit encore obtenir celui des Républicains. Et malgré une hausse des impôts, notamment sur les sociétés, et une augmentation des dépenses de l'État, pourtant deux lignes rouges présentées par la droite, les députés républicains devraient s'abstenir de voter la motion de censure.
Alexis de la Fontaine du service politique de
Le budget de l'État qui a deux points communs avec le Groenland, c'est l'opinion qui les mentionne ce matin. Ils sont tous deux immenses et risquent fort d'échapper bientôt à notre contrôle.
Deux défis qui exigent du courage. Emmanuel Macron a tenté de démontrer le sien ce week-end après les menaces économiques de Donald Trump. Face au refus du Danemark de lui vendre le Groenland, le président américain menace 8 pays, dont la France, d'une surtaxe de 10% sur les importations dès le 1er février qui pourrait monter à 25% au 1er juin.
Et nous ne nous laisserons pas intimidé, déclare Emmanuel Macron, qui souhaite activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne.
Un outil surnommé le bazooka commercial, voté en 2023. Que prévoit-il exactement, Barthélémy Philippe ?
Eh bien, l'instrument vise à dissuader les pays qui exercent des pressions commerciales contre l'Union à des fins politiques, comme c'est le cas avec le Groenland. Il ne sera activé qu'en dernier ressort si Donald Trump applique les surtaxes et qu'une majorité qualifiée du Conseil, soit 15 pays de l'Union, se prononce pour. Dès lors, une phase de médiation s'ouvrira avec les États-Unis qui auront le choix, renoncer aux surtaxes ou s'exposer à de lourdes ripostes, comme l'explique l'économiste Antoine Bouet.
La première, ce serait certainement des droits de douane de 15% sur 92 milliards de produits importés des États-Unis. On peut interdire les entreprises américaines d'accès aux marchés financiers européens ou aux marchés publics européens.
L'instrument anti-coercition n'est pas vraiment fait pour être utilisé, mais plutôt pour faire plier l'adversaire par crainte des représailles. C'est le scénario privilégié par Bruxelles, tant l'escalade des tensions serait dramatique. Pour citer un exemple, les États-Unis peuvent annihiler une partie des capacités militaires européennes en désactivant les fonctions clés des avions de chasse F-35, dont l'UE possède de très nombreux exemplaires.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron pousse donc pour avoir recours à cette arme économique de l'UE. Mais les Européens sont-ils derrière le chef de l'État ou estiment-ils qu'il va trop vite en besogne, Arthur Delaborde ?
Officiellement, l'Europe est unie. Déclaration conjointe hier des 8 pays visés par Donald Trump. Solidarité affichée, condamnation ferme. Mais dès qu'il faut agir, l'unité se fissure. Emmanuel Macron pousse pour une réponse maximale. Activer l'instrument anti-coercition, le bazooka européen. Sanctions commerciales, restrictions d'investissement, pression directe sur l'économie américaine. Une stratégie forte sur le papier, risque élevé dans les faits. Car ce mécanisme n'a jamais été utilisé. Et il engage l'Europe dans un affrontement économique durable avec Washington. L'Allemagne temporise, à peine déployée au Groenland, son petit contingent est déjà rentré de manière inattendue. Officiellement, la mission s'achève. Politiquement, Berlin envoie un signal de prudence. L'Italie freine aussi. Giorgia Meloni parle d'erreur, pas de bras de fer. Elle veut désamorcer, pas durcir le conflit. D'ailleurs, une porte de sortie diplomatique existe peut-être. À Davos, en Suisse, après-demain, où Donald Trump est attendu. Terrain neutre pour tenter de calmer le jeu. Emmanuel Macron lui assume l'épreuve de force, mais sa stratégie pose une question centrale. Faut-il frapper pour dissuader ou temporiser pour éviter l'escalade ?
Arthur Delaborde.
En Espagne, au moins 39 morts, des dizaines de blessés, bilan d'une collision entre deux trains hier soir en Andalousie.
C'est dire la violence de cet accident qui s'est déroulé à 200 km au nord de Malaga, près d'Adamuz, sur une ligne droite, sur une voie rénovée. Le ministre des Transports espagnol ne cache pas son incompréhension. Le trafic ferroviaire est interrompu toute la journée dans le sud du pays. La France a promis son soutien aux autorités espagnoles.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h09.
Top départ cet après-midi pour Parcoursup.
Les élèves de terminale vont pouvoir formuler leurs vœux post-bac. Ils ont jusqu'à mi-mars pour choisir parmi 25 000 formations. Et certains ont des stratégies bien rodées pour y parvenir. Reportage à Villepreux dans les Yvelines, Laura Legault.
Sur une feuille, Nicolas a écrit tous ses vœux de formation par ordre de préférence. Le lycéen veut devenir ingénieur.
Je pense que je vais m'orienter plutôt vers les prépas ingénieurs. J'espère avoir les meilleures prépas possibles.
Avec un bon dossier et une moyenne générale de 16, Nicolas est confiant, mais il préfère assurer ses arrières.
Des prépas sélectives et d'autres un peu moins, c'est ce qu'on nous a préconisé au lycée de faire, de mettre quand même des choix qu'on est sûr d'avoir.
Ses parents ont déjà accompagné leurs deux aînés pendant cette période stressante. Alors ils poussent aussi Nicolas à faire des vœux moins sélectifs, comme des licences d'économie à l'université.
Il vaut mieux, oui, assurer ses arrières. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les algorithmes de Parcoursup peuvent être un peu particuliers et puis il n'est pas à l'abri d'un échec.
Mais Nicolas reste serein, même si le sujet est très souvent abordé en famille.
Moi, je trouve qu'ils en font un peu trop.
Alors oui, ça revient très régulièrement. C'est surtout mon mari qui va aborder le sujet jusqu'à ce que les vœux soient terminés dans Parcoursup.
Désormais, le lycéen a 8 semaines pour formuler ses vœux et il faudra attendre le 2 juin pour recevoir les premières réponses d'admission.
Laura Legault.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Sébastien Chenu, le député RN du Nord, est l'invité de Sonia Mabrouk. 8h10, bon réveil.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199 euros par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Quand vous me dites les mandarines, il y a toujours quelqu'un pour te piquer un quartier. Eh bien, ça me donne envie de vous dire que les mandarines avec feuilles sont à 1,99€ le kilo. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Origine Espagne, variété Tangold et Nadorcote, catégorie 1, calibre 2-3, détail sur carrefour.fr.
Chaque hiver, pour avoir bien chaud à la maison, c'est toujours le même dilemme. Soit je mets le chauffage, soit je mets un pull. Mais cette année, je vais plutôt mettre mon bleu de travail et lancer des travaux de rénovation.
Bonne idée, d'autant qu'à la Banque Postale, du 5 janvier au 1er mars 2026 inclus, nous vous réservons une offre spéciale sur toute la gamme de prêts personnels, auto, travaux ou projets.
Bon bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre.
La Banque Postale, citoyenne.
Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur.
Le saviez-vous ?
Vous êtes déjà plus d'un auditeur sur deux à pouvoir écouter Europe 1 en DAB+ sur les appareils compatibles.
Toyota.
Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239 euros par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybrid Dynamique Blanc Pur à partir de 239 euros par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390 euros, réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bureau Vallée, une imprimante pour 8, c'est peu.
T'inquiète, on reçoit la nouvelle imprimante multifonction HP Office Jet Pro tout à l'heure.
Une chacun ?
Pas besoin, elle est ultra performante. Vitesse d'impression, jusqu'à 22 pages par minute.
Ah oui, rapide.
L'imprimante multifonction Jet d'encre HP Office Jet Pro 9730 qui imprime en recto verso automatique jusqu'en A3 est à seulement 179,90€.
Professionnel, démarrez l'année du bon pied avec Bureau Vallée.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Jusqu'au 24 janvier. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.
La grande interview Europe 1 CNews, Sonia Mabrouk.
La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est le député RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue Sébastien Chenu. Bonjour madame. Après les menaces du président Donald Trump d'imposer des droits de douane punitifs à de nombreux pays européens, dont la France, des pays, je le rappelle, qui veulent contrecarrer ces velléités de s'emparer du Groenland, la riposte s'organise. Tout d'abord, est-ce que vous assumez ce matin une guerre commerciale avec les États-Unis? Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que les déclarations de Donald Trump, cette espèce de chantage commercial, il est inacceptable. La façon dont Donald Trump menace l'Union européenne et la France, qui sont des pays
ami et partenaire n'est pas acceptable. Ça, c'est la première des choses. Je le dis aussi, le fait que Donald Trump cherche à mettre la main sur le Groenland n'est pas acceptable davantage. Mais ceux qui se réjouissaient de le voir mettre hors d'état de nuire et sortir Maduro, aujourd'hui doivent comprendre que c'est la même logique qui habite Donald Trump. On était très contents de voir Maduro sorti, parce que Maduro était un salaud au Venezuela. Mais le problème, c'est que la logique de Donald Trump l'amène à continuer à développer cette espèce d'expansionnisme.
Là, vous justifiez votre position qui Maduro dehors, mais attention à la méthode trumpienne. Mais
oui, parce que les souverainetés appartiennent au peuple. Sur, effectivement, votre question et le chantage commercial, il est inacceptable et nous avons des moyens de rétorsion qui permettent d'ailleurs tout simplement de résister à la pression de Donald Trump.
C'est une arme de dissuasion, rappelons-le d'ailleurs à nos auditeurs et téléspectateurs ce matin. Emmanuel Macron va donc demander au nom de la France l'activation du fameux instrument anti-coercition de l'Union européenne qui vise en réalité à pousser à la négociation un pays tiers qui vous menace. D'abord, est-ce que vous saluez le volontarisme du président français?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, il fait n'importe quoi, Emmanuel Macron. C'est totalement illisible. Et ce mécanisme dont il parle, il y a quand même des choses plus simples à faire. Il y a eu un accord cadre qui a été signé au mois de juillet dernier entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous, nos députés européens, sous l'égide de Jordan Bardella,
s'y sont opposés. Acté dans quelques semaines.
Voilà, s'y sont opposés. Eh bien, dénonçons, suspendons
cet accord. Monsieur Chenu, qui peut croire qu'en dénonçant un tel accord, M. Trump va arrêter ses appétits du Groenland.
Mais parce qu'il y a aussi, pour les États-Unis, dans cet accord cadre, des avantages dans l'exportation d'un certain nombre de produits. Donc, si vous voulez, il faut que les États-Unis comprennent que la politique qu'ils mènent, ils ont le droit de mener la politique qu'ils veulent, mais elle va avoir un coût et des conséquences aussi pour eux. Donc, je pense qu'il faut la volonté politique.
Au-delà des actes, par exemple, est-ce que vous, au pouvoir, est-ce que vous iriez. Donc, réciprocité des droits de douane, vous dites oui.
Oui, mais ça, c'est normal.
Imposer des quotas sur les services numériques, vous dites oui.
Oui, je pense que ce qui permet en réalité de montrer à Donald Trump que sa politique a un coût et que l'Europe n'est pas son vassal, parce que je pense que c'est ça aussi. Si l'Europe ne montre rien, je parlais de suspendre cet accord cadre ou de mettre un certain nombre de politiques en place, ça montre que Bruxelles accepte une sorte de vassalisation.
Jusqu'où l'échelle ? Interdiction des importations de produits américains, suspension des autorisations d'exercer à certains groupes américains sur le sol européen. Est-ce qu'il faut une échelle, une graduation ?
Mais comme dans toute, j'allais dire, négociation, dans toute relation, il faut une échelle des graduations. Et je pense que... Et d'ailleurs, Donald Trump lui-même...
Donc là, vous assumez une guerre commerciale, une confrontation totale et directe.
C'est une guerre commerciale, on peut l'appeler comme on veut, on peut jouer à se faire peur. On assume le fait de résister, de montrer qu'avec les moyens que nous avons, ils existent. Encore faut-il vouloir les mettre en œuvre.
Riposte européenne, Sébastien Chenu.
Oui, d'accord, mais pour que
je vous pose la question pour vous, elle est forcément européenne.
Parce que là, sur ces accords-là, elle est européenne, puisque c'est l'Europe qui a le mandat de négocier les accords commerciaux. Moi, je le regrette en partie, parce que sinon, on n'aurait pas le Mercosur. Moi, je pense que le fait d'avoir délégué à l'Europe nos leviers de souveraineté, dont les accords commerciaux agricoles, dont la politique agricole commune, est une faiblesse pour notre pays. Aujourd'hui, l'Europe a cette possibilité. Il faut qu'elle l'utilise. Et il faut peser pour cela. Mais il faut que les nations soient fortes également. Car si les nations sont faibles. Mais Donald Trump le comprend. Si les nations sont divisées,
Emmanuel Macron... Pour être craint, il faut être puissant.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est Emmanuel Macron qui a détricoté notre puissance. C'est lui qui a sans arrêt donné plus de possibilités, de leviers de souverainisme, de leviers de décision, pardon, à l'Union européenne et qui nous a privés de ces leviers de souveraineté. Emmanuel Macron qui a vendu Alstom. Enfin, c'est Emmanuel Macron qui a déconstruit et qui maintenant se plaint des effets de la politique qu'il a menée lui-même. Tout ça n'est pas très sérieux et nous place dans des relations, évidemment, extrêmement difficiles aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis.
La question, Sébastien Chenu, est plus large. Et de savoir si on peut, finalement, à l'intérieur de l'Union européenne, protéger les intérêts français. Vous avez parlé du Mercosur. Le RN dit oui, affirmant qu'il est possible de transformer l'UE de l'intérieur. Mais est-ce que vos promesses ne risquent pas de se fracasser sur le mur de la réalité si vous arrivez au pouvoir ?
Non, parce que là aussi, encore, on a des leviers. C'est toujours pareil, c'est la même chose. Avec Trump, l'Union européenne a des leviers, il faut qu'elle les active. Et nous, la France, vis-à-vis de l'Union européenne, on a des leviers, il faut les activer. Je ne vais même pas encore jusqu'à la politique de la chaise vide que nous pourrions, que la France pourrait faire si elle est en désaccord.
Vous dites qu'on ne pèse plus rien, alors sur une chaise vide ou si on y est, que pèse-t-on ?
Par exemple, la contribution de la France à l'Union européenne est extrêmement importante et elle augmente chaque année. Et dans le budget de Le Cornu, elle va encore augmenter. Eh bien, si on gelait cette contribution, si on disait à l'Union européenne, encore faudrait-il que Emmanuel Macron veuille défendre les intérêts de la France. Eh bien, la France gèlera sa contribution. Croyez-moi que ça fait bouger les choses. C'est un des leviers.
Vous dites ce matin, malgré ce qu'on a vu l'épisode sur le Mercosur et ce que l'on voit là en termes, dites-vous, en tous les cas, de transfert de souveraineté, le RN ne franchira pas le Rubicon de la sortie de l'UE s'il n'arrive pas à faire bouger de l'intérieur les lignes, si vous arrivez au pouvoir, encore une fois.
Non, mais je pense que l'arrivée du Rassemblement national, d'une présidente ou d'un Premier ministre Rassemblement national à la tête de la France obligerait, de fait, puisque la France est l'un des premiers contributeurs, le second, je crois, obligerait l'Union européenne à se mettre autour de la table. Ben non, parce que nous sommes un des piliers de l'Union européenne, y compris financièrement. À partir du moment où la France dirait, écoutez, nous, on contribue pas autant, on recule sur notre contribution, ou alors vous vous mettez à table pour négocier, vous nous redonnez des leviers de souveraineté, croyez-moi que ça les fera bouger. Mais on n'a pas ça. Ce discours, il n'existe pas. Aucun Premier ministre qui se soit succédé n'a porté ce discours, et surtout pas Emmanuel Macron, qui, lui, ne croit qu'à la souveraineté européenne, ce qui n'existe pas. La souveraineté, c'est les nations qui l'hébergent, c'est constitutif des nations. Emmanuel Macron a délégué nos leviers de puissance à d'autres, je le disais, sur l'agriculture, sur les accords de libre-échange, mais aussi sur les frontières. Et aujourd'hui, il nous laisse dans un état d'extrême faiblesse.
La puissance, en tous les cas, elle est aussi économique, financière, évidemment. Venons-en au budget, Sébastien Chenu. Le Premier ministre a écrit aux entrepreneurs pour tenter de les rassurer, alors que des gages ont été clairement donnés aux sociétés, notamment avec cette surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Rappelons qu'elle concerne quand même 400 entreprises. Sébastien Lecornu qui justifie le tout par la stabilité qu'il faut au pays. Le PS sourit, la censure s'éloigne. Comment vous qualifiez vous-même ce budget ?
Bon, d'abord, quelle perte de temps. Sébastien Lecornu savait depuis le début qu'il n'avait pas de majorité pour sauver ce budget, pour voter ce budget, et donc il a fait croire aux députés qu'ils allaient construire un budget, alors qu'évidemment nos positions, parce que nous sommes élus sur des idées politiques, sur des positions politiques, elles sont opposées à celles des macronistes et opposées à celles de l'extrême gauche. Donc il nous a fait perdre du temps. Puis il a menti aux Français, accessoirement.
Pourquoi ? Bah,
il avait dit qu'il n'utiliserait pas le 49-3. Il va l'utiliser.
Situation bloquée.
Il va l'utiliser. Oui, ben enfin de son fait, on savait tout ça dès le début.
De son fait, alors histoire. Lui pense que, enfin, le pense. L'exécutif affirme que les saboteurs sont LFI et RN que leur.
Non, mais ça c'est la facilité. Nous, on est l'opposition. On n'est pas d'accord avec ce budget. On ne le vote pas. On s'est jamais caché derrière notre petit doigt. On vote pas un budget dans lequel il y a 3500 milliards d'euros de dette. Il y a aucun effort qui est fait sur la dépense publique. Aucun effort qui est fait sur le déficit. Marine Le Pen avait dit tout ça. Mais peut-être qu'il y a une chose. C'est que le PS, il y a quelques mois, depuis quelques mois plutôt, fait monter les enchères. Alors, il n'était pas achetable encore il y a quelques semaines.
Enfin, Rafle Lamy. Vous parlez d'achetable. Eux, en tous les cas, sur cette surtaxe, c'était écrit en noir sur blanc, hein, comme demande du Parti Socialiste.
Alors, les mesures de Sébastien Lecornu pour acheter les socialistes, c'est la verroterie avec laquelle les colons achetaient les indigènes dans certains pays. Donc, si vous voulez.
La comparaison a fait réagir.
Oui, non, mais c'est ça, c'est les socialistes. Sont des soumis. Ils sont soumis électoralement à la France insoumise. Ils sont soumis ensuite au deal qu'ils font avec le gouvernement. Ils ne dominent rien du tout. Ce sont des soumis qui ont peur pour leur siège.
Ils ne dominent rien, mais réalité. Le budget est estampillé socialo-macroniste.
Ah, mais ils colorent les choses, parce que la réalité.
Ils dirigent même, monsieur.
Je ne sais pas s'ils dirigent, parce que tout ça, c'est
de la tactique. Un budget, c'est quand même la colonne vertébrale d'un pays.
C'est de la tactique. La réalité, celui qui dirige, qui est Premier ministre, et qui accepte ces magouilles, ces soumissions, ces deals pourri avec le Parti Socialiste, c'est Monsieur Lecornu.
Alors pourquoi n'avez-vous pas censuré depuis des mois ?
Enfin, on a censuré la semaine dernière, Madame Mabrouk.
Pourquoi pas depuis des mois, si vous tenez ce discours depuis des mois ?
On a censuré, on a fait tomber Michel Barnier, on a fait tomber François Bayrou. Écoutez, on est prêt à faire tomber Sébastien Lecornu. La semaine dernière, ni le PS, ni les Républicains n'ont voté notre motion de censure parce qu'ils ont la trouille. Mais ce qui signe le budget de Monsieur Lecornu, outre le fait que zéro effort sur le déficit, zéro effort sur la dette, c'est l'augmentation, effectivement, des impôts pour les Français, parce que les mesures qu'il sort, elles ont un coût qui a été évalué, je crois, à 7 milliards. Mais comment va-t-il les financer ? Cette fuite en avant, ces gens vont ruiner notre pays. Monsieur Lecornu va ruiner notre pays avec l'aide des socialistes. Mais les socialistes, ils sont habitués à ruiner tout ce qu'ils touchent. Regardez la gueule de la mairie de Paris. Donc les socialistes, de toute façon, c'est une pratique, ruiner tout ce qu'ils touchent. Mais monsieur Lecornu ne mène pas une politique budgétaire sérieuse. Il va ruiner notre pays.
En tous les cas, 49-3 ordonnance, ce sera décidé tout à l'heure en conseil exceptionnel, conseil des ministres exceptionnels. Vous semblez penser
penché pour le scénario du 49-3. La bataille des municipales se rapproche, Sébastien Chenu, des élections sur lesquelles plane l'ombre de l'entrisme islamiste, notamment dans une ville que vous connaissez bien, à Denain, dans le Nord, Soufiane Iquissen. Ce nom dit quelque chose forcément à nos auditeurs et téléspectateurs. C'est le fils de l'imam expulsé au Maroc par les autorités françaises parce qu'il a tenu des propos incitant à la haine. On apprend qu'il est candidat sur une liste proche, apparentée ou soutenue par des cadres locaux LFI. Quelle est votre réaction ce matin ?
C'est l'entrisme islamiste, c'est le communautarisme dans ce qu'il a de plus abouti. À Denain, où nous lancions hier la campagne de notre candidat, le sénateur Joshua Auchard, nous connaissons la famille Iquissen depuis toujours. Moi, je les ai combattus bien avant même d'être député dès 2016. Ce sont des gens qui ont un agenda communautaire, un agenda idéologique qui n'a rien à voir avec le bien commun. Aujourd'hui, ces gens sont arrivés, d'ailleurs, c'est pareil dans les villes d'à côté, à Douchy-les-Mines, vous avez un entrisme islamistes qui existent sont arrivés par les partis politiques de gauche traditionnels, le Parti communiste, le Parti socialiste qui les ont hébergés, et aujourd'hui ils prennent une sorte d'indépendance, et la seule réponse à ça, c'est le vote du Rassemblement National, parce que sur qui des électeurs peuvent-ils compter?
Alors peut-être en amont, pardonnez-moi, on devrait d'abord se prémunir d'un tel entrisme islamiste, normalement.
Ah mais bien sûr, enfin, là ils sont là. Là ils sont là. Ils sont là, ils concourent au scrutin. Donc le dénoncer, expliquer
qui ils
sont.
La droite.
Ben oui, nous sommes les seuls. Oui, puis ça fait des années. Et on a été bien seuls. D'ailleurs, on a été moqués. Vous savez, c'est l'histoire du lycée Averroès.
Tous les autres sont complices de l'entrisme islamiste aujourd'hui.
Le lycée Averroès de Lille, puisqu'on est dans le Nord, financé par les islamistes. On l'a dénoncé avec Marine Le Pen dès 2015. Monsieur Bertrand, Xavier Bertrand, qui finançait tout ça, nous a traité de tous les noms. Puis maintenant, il a ouvert les yeux. Il a remarqué qu'effectivement, on avait raison. Donc oui, en réalité, le Rassemblement National est toujours le premier à dire les choses. Mais c'est la meilleure réponse aux élections municipales face à l'entrisme islamiste. Et l'entrisme islamiste. Il y aura le cas dans des grandes villes, à Marseille, à Nîmes, à Tarascon.
Son premier déplacement, oui.
Il y a des villes dans lesquelles cette problématique n'aura que pour réponse l'élection d'un maire Rassemblement
D'autres
National.
D'autres tiennent votre discours, en tous les cas veulent vous remplacer, si je puis dire. C'est le cas dans la capitale. Sébastien Chenu, à Paris, votre candidat Thierry Mariani a beaucoup souffert de l'entrée en campagne de Sarah Knafo, qui creuse l'écart avec le RN. Elle va jouer les troubles faites, selon vous?
J'en sais rien, elle a son agenda. Moi, je crois que la réponse aux problématiques des Parisiens, tant sur l'insécurité que sur le logement, elle est la réponse du Rassemblement National
là,
et la candidature
de
Thierry Mariani.
De bois.
Non. Je vous dis simplement que...
Sarah Knafo de Reconquête ne dit pas la même chose sur l'insécurité?
Oui, c'est vrai qu'elle copie un peu le programme du Rassemblement National. Mais la réalité, c'est que ces élections, elles vont être très politiques. Si les électeurs veulent un changement politique dans leur pays, ça passe aussi par un changement local. Moins d'impôts et plus de sécurité, c'est ce que les maires du Rassemblement National, que ce soit à Hénin-Beaumont, que ce soit à Bruay, pour rester dans les Hauts-de-France, c'est la politique qu'ils ont menée avec succès. Donc, il faut que les électeurs se disent, voilà, si on veut un changement, si on veut moins d'impôts et plus de sécurité, c'est le Rassemblement National. Mme Knafo mène la politique qu'elle veut, mais elle a un agenda personnel qui n'est pas celui de la capitale.
Oui, mais, qui ne l'a pas en politique, oui, dites-moi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle court après probablement qu'elle ait son sort personnel qui l'intéresse davantage que le sort des Parisiens.
Citez-moi responsable politique qui n'est pas...
Thierry Mariani, je crois que lui...
Pas du tout intéressé par son sort personnel.
Il est député européen, je pense qu'il a envie que nos idées progressent. Au-delà de ça, il faut absolument que la gauche soit boutée hors de Paris. C'est une nécessité. Ces gens ont ruiné la capitale, je le disais tout à l'heure, les socialistes ruinent tout ce qu'ils bougent, tout ce qu'ils touchent. Ils ont abîmé notre capitale, ils l'ont abîmé en termes de sécurité, en termes de programme de logement, ils ont ghettoisé notre capitale. Il y a urgence à sortir la gauche de Paris.
Est-ce que l'agenda judiciaire, cette fois-ci, risque de percuter de fait les élections municipales? Marine Le Pen joue en ce moment, elle, son avenir personnel. Le nouveau procès, Sébastien Chenu en appelle, dans l'affaire des assistants parlementaires, a entraîné un changement de ligne, de stratégie, semble-t-il, puisque Marine Le Pen a affirmé que si un délit avait été commis, elle veut bien l'entendre, donc pas d'intention, dit-elle, délibérée de commettre un délit. Mais est-ce que vous reconnaissez que vous avez entendu le jugement de première instance?
Mais l'entendre, oui, Marine Le Pen le dit. Qu'est-ce que ce dossier dit? Ça dit qu'il y avait des pratiques administratives, l'utilisation de collaborateurs qui ont été validées par le Parlement européen, qui a changé un peu, évidemment, la règle du jeu en cours de route, et qui ont amené au fait d'être contestés par le Parlement européen. On a un désaccord sur l'utilisation de ces collaborateurs.
Mais que l'avez-vous dit au premier procès?
Il n'y a pas eu d'emploi fictif. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, et nous entendons que c'est ce que dit c'est ce que dit la justice, qu'il y aurait eu un délit. Marine Le Pen dit, moi je veux bien entendre Vous dites, est-ce qu'elle l'a entendu ? Je veux bien entendre cela. Mais il n'y avait aucune volonté, aucune acte délibéré de commettre un délit.
Voilà,
nous, on a utilisé les textes qui existaient. Et ces textes, en plus, ils ont, je vous le dis, évolué. Donc nous entendons, Marine Le Pen entend cela, mais elle continue à se battre pour faire valoir quoi ? Son innocence. Elle n'a jamais voulu frauder quoi que ce soit.
L'une des possibilités ou l'un des scénarios plausibles, ce serait 2 ans d'inéligibilité qui permettrait à Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que ce serait acceptable ? Est-ce que dans ce cas-là, vous ne dénonceriez pas un déni de démocratie, puisque ce sont les Français, in fine, qui pourraient voter et donc choisir ?
Non, mais que les Français votent à la fin pour le candidat de leur choix aux élections présidentielles me semble être la pierre angulaire
de la démocratie.
Donc il faut que Marine Le Pen puisse concourir. C'est ce que nous disons depuis toujours. Ce n'est pas à la justice de décider qui peut ou pas être candidat. Marine Le Pen se bat pour faire valoir son innocence.
Ce serait le cas, il y a seulement, si je peux dire, 2 ans d'inéligibilité.
Mais si Marine Le Pen peut être candidate à l'élection présidentielle, elle sera candidate à l'élection présidentielle. Ça nous semble être la logique des choses. Mais Marine Le Pen, aujourd'hui, elle se bat pour faire valoir quoi ? Son innocence.
Pour conclure, quelques questions rapides, Sébastien Chenu, mais sur un thème d'importance, puisque c'est une semaine décisive autour du projet sur l'euthanasie au Parlement, notamment au Sénat. Pour beaucoup, nous sommes en train d'assister à un basculement éthique et anthropologique majeur. Il y a quelques mois, vous déclariez ceci, je vous cite, « Vouloir voter un texte facilitant la fin de la vie dans un contexte choisi, mais pas n'importe lequel ». Vous n'êtes pas sur la même ligne que Jordan Bardella, qui, dans une tribune pour le JDD, a clairement dit son opposition à l'euthanasie.
Oui, sur les questions de société qui font appel à l'intime, nous avons, nous, les députés du Rassemblement National, une liberté de vote. Moi, j'ai voté ce texte, Marine Le Pen ne l'a pas voté, pour des raisons probablement qui nous habitent intimement, et aussi parce que j'ai considéré qu'il y avait des garde-fous suffisants. Si ces garde-fous étaient levés, évidemment, ça changerait beaucoup les choses.
Pourquoi ne le sont-ils pas quand on voit le texte ?
On va voir, le texte va revenir. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui des garde-fous. Et je compte sur le Sénat pour maintenir ces garde-fous et pour faire en sorte que ce texte ne puisse pas permettre ces dérives que personne ne veut. Donc nous en sommes là. Moi je pense que ce texte, il a une nécessité dans notre société. Je maintiendrai mon vote si les garde-fous sont maintenus.
La commission d'enquête sur l'audiovisuel va reprendre ses auditions. Est-ce qu'on a voulu faire taire, selon vous, le député Charles Lalonde qui affirme qu'on ne le bâillonnera pas ?
De toute évidence, tout est fait pour compliquer la tâche de Charles Lalonde, député UTR, bien courageux, qui fait des auditions dans l'adversité la plus totale, y compris parfois de nos institutions. Charles Lalonde a bien du courage pour faire la lumière. On a l'impression que ça dérange de poser des questions à l'audiovisuel public, mais il va falloir s'y habituer. Parce que nous, on compte évidemment déranger l'audiovisuel public, le déranger jusqu'à le privatiser.
Une question que je ne pensais pas poser, parce qu'elle touche à la fois l'aspect politique et people, mais c'est ainsi. Le quotidien Le Monde a publié un long papier sur le président du RN, Jordan Bardella, qui, je cite, l'article s'est affiché à l'événement du bicentenaire de Figaro avec l'héritière italienne d'une famille royale, en l'occurrence la fille du français Charles de Bourbon des Deux Siciles, parmi les plus fortunés de la jet set internationale. Pour Le Monde, je cite, se dire le relais d'un peuple oublié et s'afficher ainsi, c'est incompatible. Que répondez-vous ?
Non, mais c'est grotesque cette attaque du Monde. Si Jordan Bardella est amoureux, qu'il le soit d'une princesse ou qu'il le soit d'une étudiante ou qu'il le soit de qui que ce soit, c'est son choix, c'est une belle histoire et je lui souhaite bien du bonheur dans le cadre de cette histoire si c'est celle qu'il souhaite vivre.
Plus gravement, et c'est l'essentiel pour vous, pourquoi le monde, selon vous, le monde de la culture ne se mobilise pas autant pour les Iraniens que pour les Palestiniens ?
Vous avez raison. Saluons Isabelle Adjani et Audrey Lamy. J'ai vu que c'était deux comédiennes qui s'étaient mobilisées pour soutenir le peuple iranien. Ce monde de la culture qui donne beaucoup de leçons, qui signe beaucoup de pétitions pour ce qui se passe au bout du monde, est incapable d'ouvrir les yeux pour ce qui se passe peut-être un peu plus près d'ici, peut-être parce qu'ils ont peur, tout simplement, et parce qu'ils sont eux aussi sous la férule d'une certaine forme d'islamisme mené par LFI dans notre pays.
En tout cas, c'est aussi le combat d'Eli Chouraki qui sera dans quelques instants avec Romain Desarbes sur CNews et qui porte ces combats multiples, évidemment, et qui ne sont pas à géométrie variable. Merci Sébastien.
Merci Madame.
C'était votre grande interview. À bientôt.
Merci Sébastien Chenu, merci Sonia Mabrouk. Restez avec nous sur Europe 1. Vos signatures du lundi dans un instant, à commencer par Philippe Val. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
À tous ceux qui se font du Nutella aux tartines le matin. À ceux qui se font du Nutella, mais sans tartines et pas que le matin. Et à ceux qui attendent la Chandeleur pour se faire du Nutella aux crêpes. Dès mardi chez Intermarché, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième produit acheté, sur toutes les pâtes à tartiner Nutella. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 1er février, sur le moins cher des deux, modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Professionnels, vous avez besoin d'un utilitaire pratique et abordable ? Découvrez Citroën Berlingo Van à seulement 159€ hors taxes par mois. Modulable et économique, il s'adapte à toutes vos missions au quotidien. Il est disponible immédiatement en stock limité et bénéficie de jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Découvrez également Berlingo Van XTR, notre version suréquipée. Rendez-vous vite dans votre point de vente Citroën.
Citroën. Crédit bail 60 mois, 100 000 km. Premier loyer de 5 700€ hors taxes. Offre professionnelle jusqu'au 31 janvier. Si acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific. Allez à l'essentiel.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160€ par mois avec 5 740€ de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700€, prix maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le Code de la Mutualité.
7h-9h,
Europe 1 Matin. Le Club Culture Europe 1 arrive dans un instant avec aussi vos signatures du jour. Pascal Praud nous rejoindra. La revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde, c'est dans quelques instants sur Europe 1. Bonjour Olivier, les grands titres.
Bonjour, je vais vous parler ce matin de la faillite des élites.
A tout de suite, votre signature Europe 1 du jour. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri.
Vieux débat ce matin, les nazis étaient-ils pires que les communistes ?
Voilà, c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui.
C'est bien, ça va nous changer. Merci Philippe, allez à tout de suite. Mais d'abord, votre Club Culture Europe 1.
Europe 1.
Avec dans un instant la série de la semaine retenue par Héloïse Goua. Mais d'abord, le livre du jour avec Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Dimitri.
Vous nous parlez ce matin du nouveau Florent Oiseau. Florent Oiseau qui était votre invité ce dimanche dans La Voix et Livre sur Europe 1, 18h-19h.
Exactement. Auteur boukovskien en diable que l'on suit depuis longtemps, il revient avec Magloire chez Gallimard. Le héros narrateur est un traînard attachant. Il vient de se faire licencier, ça lui va très bien. Il a décidé depuis longtemps que ne rien faire était mieux que tout le reste. Rien faire sauf coller allègrement toute la journée.
Ah oui, quand vous parlez de Bukowski, il est à la dérive, notre garçon. Là.
Salement. Enfin, il se débrouille, hein. Il vit de petits trafics dans l'Est parisien, grâce à son contact qui lui refourgue du vernis à ongles en gros, qu'il revend aux détaillants du coin, pas cher. Mais enfin, il se surveille un peu quand même, parce que sa femme en a marre, on la comprend un peu, et surtout, il essaye quand même de préserver sa fille de 10 ans. L'une, ces deux-là s'aiment beaucoup d'ailleurs, même si elle a de la peine pour son père, bien sûr. Souvent, ils se baladent ensemble au cimetière de Charonne, et passent toujours dire bonjour à Magloire. Magloire, c'est une personnalité du cimetière. Il a même une statue, ça c'est authentique. Il est inscrit sur le piédestal « Bègue dit Magloire ». Peintre en bâtiment, patriote, poète, philosophe et secrétaire de Monsieur de Robespierre.
Le secrétaire de Robespierre
est plutôt un mythomane génial du 19e qui s'est créé une légende posthume et avait mis tout le peu d'argent qu'il avait réussi à gratter dans son monument et qui a payé une tournée générale de vin à tous ceux qui assisteraient à ses funérailles. Il est devenu une gloire très locale et ça fascine l'une qui décide d'embarquer son père dans une enquête historique sur ce Magloire pour savoir qui il était réellement. Elle a aussi une surprise pour son père. Elle lui annonce, et c'est non négociable, que les parents vont jouer dans la pièce de théâtre de l'école et qu'il devra jouer, lui, le rôle d'une bonne fée. Ça l'arrange pas, mais il va quand même essayer de faire plaisir à sa fille. C'est un roman très touchant, très drôle et aussi très désespéré, servi par un style précis, alerte et reconnaissable entre mille.
Donc voilà le pourquoi du titre Magloire, signé Florent Oiseau, votre invité dont je rappelle ce dimanche, c'était dans La Voix est libre sur Europe 1, qu'on peut retrouver bien sûr en réécoute sur le site et l'appli d'Europe 1 et toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci beaucoup Nicolas Carreau. On passe à la série de la semaine à présent. Héloïse Goua, vous nous recommandez une série française qui arrive sur nos écrans cette semaine avec en tête d'affiche Valérie Bonneton.
Valérie Bonneton, qu'on associe souvent à la comédie. On pense évidemment à Fabienne Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi à ses rôles très drôles dans Les Petits Mouchoirs ou Les Boules de Noël. Bon, cette fois, changement radical de registre. L'actrice épate dans une série dramatique très réussie, l'affaire Laura Stern. En seulement 4 épisodes, la fiction explore sans détour les violences conjugales. On suit Laura Stern, une pharmacienne. Elle dirige une association d'aide aux femmes victimes de violences.
T'es en sécurité ici, d'accord ?
Mais parce qu'en fait, il m'a appelé ce week-end pour récupérer les enfants. Moi, je lui ai dit non, parce que les enfants, ils voulaient pas le voir. Et le juge, de toute façon,
il a une mesure d'éloignement, il est en infraction. D'accord ? Tu veux qu'on appelle la police ?
Je sais pas.
La série ne se limite pas aux violences physiques. Elle évoque aussi l'emprise psychologique, plus insidieuse. Bon, je préfère vous prévenir, cette série est souvent difficile à regarder. On assiste dès le début du premier épisode à une scène très choquante. Un féminicide est commis en pleine rue. Suite à cet événement qui aurait pu être évité, Laura Stern est envahie par une colère froide, une colère redoutable. Face à la passivité de la police et de la justice, cette mère de famille décide d'agir pour empêcher la violence des hommes, quitte à prendre des risques, quitte à mettre en jeu sa propre liberté.
Laura, je ne sais pas quoi faire.
Faut pas rester comme ça, Camille. Je vais vous aider.
Je suis là. Vous m'écoutez, c'est déjà bien.
Je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue haletante. Toutes les actrices sont remarquables, à commencer par Valérie Bonneton, impressionnante dans ce rôle à contre-emploi. L'affaire Laura Stern, c'est une série qui remue beaucoup, oui, mais qui sonne juste. Elle résonne particulièrement dans une société où, l'an dernier, au moins 97 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints en France. Et je ne crois pas que cette série cherche à choquer. Elle est nécessaire parce qu'elle nous oblige d'abord à regarder la réalité en face.
Voilà, ça s'appelle l'affaire Laura Stern. C'est à retrouver dès jeudi sur HBO Max et l'App Canal. La série arrivera ensuite sur France TV à partir du 19 février. Merci beaucoup, Héloïse Goua.
Et puis, les invités de Culture Média, Dimitri, de 10h à 11h30 sur Europe 1 tout à l'heure. On va retrouver le duo Philippe Candeloro et Nelson Montfort pour les apprentis champions au ski. Vous connaissiez les apprentis aventuriers, hein, vous savez, la crème des candidats de télé-réalité. Ben là, ils partent au ski. C'est à partir d'aujourd'hui à 17h40 sur W9. Et puis l'invité culture, l'excellent Francis Huster pour la pièce En thérapie au Théâtre Antoine.
L'adaptation de la série du même nom,
absolument,
c'est ça.
Absolument, ouais. Que vous avez vu sur Arte.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi, vous savez tout. Il est 8h40 sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous.
Ce matin, vous voulez nous parler de la mémoire des crimes du communisme.
Oui, mais d'abord, un mot sur Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Je l'ai rencontrée quelques fois parce qu'elle est une des très rares personnalités politiques à s'être mobilisée sur le long terme après les attentats contre Charlie et l'hypercacher. Elle a organisé elle-même dans les lycées d'Île-de-France de nombreuses rencontres entre des dessinateurs, des journalistes et des lycéens. Et ces rencontres ont toujours été très fructueuses. Et figurez-vous qu'elle fait l'objet d'une tribune parue dans Le Monde, signée par l'inénarrable Benoît Hamon et par des historiens de gauche. Elle est accusée, je cite, de s'ingérer dans les contenus pédagogiques en instrumentalisant l'histoire et les mémoires.
À quel propos une telle grave accusation contre Valérie Pécresse ?
À propos d'un amendement au budget de la région dans le but, je cite, d'entretenir la confusion intellectuelle entre nazisme et communisme. Il s'agit en réalité d'engager des partenariats avec des institutions mémorielles consacrées aux crimes des régimes communistes en Europe centrale et orientale. Les signataires de la tribune qui, à ma connaissance, ne se sont jamais signalés par leur grande vigilance pour la mémoire de la Shoah, craignent soudainement qu'on ne banalise les crimes du nazisme. Ils se scandalisent et dénoncent une tentative de mettre un signe égal entre le nazisme et le communisme.
En effet. Alors, c'est en effet un débat électrique qui parcourt tout le travail sur la mémoire du XXe siècle, Philippe.
Absolument. L'argument en faveur d'une gravité moindre des crimes du communisme, c'est d'une part l'absence de triage ethnique et d'autre part l'absence d'un projet criminel avoué. En effet, les communistes tuaient le plus souvent sans se soucier de l'origine des victimes et sans l'avouer. Quant au projet, il était d'apporter le bonheur sur toute la Terre, contrairement aux nazis qui ne promettaient le bonheur que dans les frontières du Troisième Reich. Il est admis que la planification industrielle de la destruction des Juifs d'Europe constitue la singularité du crime nazi. Mais Les raisons pour lesquelles les crimes du communisme bénéficient d'une sorte d'amnistie mémorielle sont inacceptables. Et c'est tout à l'honneur de la région Île-de-France de contribuer à corriger cette lacune dont nous n'arrêtons pas de payer les conséquences.
On peut admettre, Philippe, que ce sont deux monstruosités de nature différente. Hein.
Oui, mais il est moralement incompréhensible qu'il existe encore des partis communistes et des dans les pays démocratiques en Europe. Sans même avoir besoin de les interdire, ils ne devraient pas venir à l'idée de qui que ce soit de faire un parti nazi ou un parti communiste au XXIe siècle. Si les jugements, certes, méritent d'être nuancés, la peine légale, la sentence politique et la condamnation morale doivent être identiques. Les deux ont en commun d'avoir commis un crime maximum prévu par la loi des hommes. Qu'importe que l'un soit plus ou moins maximum que l'autre.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe ?
Bah, par exemple, entre le docteur Petiot, convaincu d'avoir assassiné 5 femmes, et Eichmann, convaincu d'avoir participé au meurtre de 6 millions de juifs, les juges n'ont pas eu à dire lequel méritait plus que la mort. Ils ont condamné deux crimes différents à la même peine maximale que prévoyait le droit en ce temps-là. C'est le principe du droit de ne pas se laisser inspirer l'horreur de la sentence par l'horreur du crime. Que le communisme ait politiquement survécu pour l'unique raison que Staline, trahi par Hitler, s'est retrouvé du côté des vainqueurs à la fin de la guerre, est une catastrophe morale pour l'Europe et pour la France. Alors que Benoît Hamon et ses petits copains, historiens et compagnons de route des criminels communistes se rassurent. La mémoire des victimes du communisme ne fera jamais d'ombre à la mémoire des victimes du nazisme. En revanche, l'effacement des unes n'est que l'avant-goût de l'effacement des autres.
Signature Europe 1, merci beaucoup Philippe Val pour ces mots puissants et profonds que vous avez prononcés ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup Philippe. Restez avec nous sur Europe 1, il est 9h moins le quart dans un instant. La revue de presse signée Olivier Delagarde et Pascal Praud va nous rejoindre. À tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Après 50 ans de mariage, ma femme c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'ai été déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG m'a orienté et puis s'est occupé de tout.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 32 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 32, un service PFG.
Bureau Vallée, une imprimante pour 8, c'est peu.
T'inquiète, on reçoit la nouvelle imprimante multifonction HP Office Jet Pro tout à l'heure.
Une chacun ?
Pas besoin, elle est ultra performante. Vitesse d'impression jusqu'à 22 pages par minute.
Ah oui, rapide.
L'imprimante multifonction jet d'encre HP Office Jet Pro 9730 qui imprime en recto verso automatique jusqu'en A3 est à seulement 179,90€.
Professionnel, démarrez l'année du bon pied avec Bureau Vallée.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Jusqu'au 24 janvier. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.
Je ne sais plus quoi faire pour qu'il ait des bonnes notes. Il faut que je lui promette un drone maintenant.
Bonjour, je suis Laurent, conseiller Academia. C'est ce que cette maman m'a confié en venant me parler de sa fille Gabrielle. Malgré ses bonnes notes, il fallait encore qu'elle progresse pour le projet d'études qu'elle visait. Avec elle et ses parents, on a convenu que les cours particuliers Academia, avec un enseignant capable de la challenger, étaient la solution pour atteindre ses objectifs. Résultat, plus 4 points de moyenne. Et chez Academia, c'est notre engagement depuis plus de 25 ans.
Academia, le plaisir de réussir.
Renseignez-vous sur academia.fr.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkea.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkea, c'est du sur-mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkea.fr.
Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239€ par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybride dynamique blanc pur à partir de 239€ par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4390€, réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous condition de reprise. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
Il est 8h.
8h47, vous écoutez Europe 1 Matin avec Dimitri Pavlenko.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour vos soirées 21h, 22h sur Europe 1. Prenez le temps d'écouter La France Bouge.
Oui, Aurélien Fleureau met chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les startups qui osent et qui réussissent. Avec ce soir une émission consacrée au secteur de l'automobile. Aurélien Fleureau reçoit Édouard Georges, directeur de Citroën France. La France Bouge, c'est du lundi au jeudi, 21h, 22h sur Europe 1.
Et lui, c'est deux rendez-vous par jour, 16h, 18h sur Europe 1, mais également en codiffusion avec CNews de 9h à 10h. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour.
Ça va Pascal? Vous avez passé un bon week-end?
Excellent. Excellent week-end.
Vous avez vu un très bon film?
Ah ben, si vous voulez que je vous en parle, j'ai vu un film qui s'appelle Sans Pitié. C'est un bon film français.
Oui.
Donc, vous pouvez aller le voir.
Eh ben, écoutez.
Un film original. Qui ne se passe pas exceptionnellement dans une cuisine et qui ne parle pas des intermittences du cœur. Donc, non. Mais non, c'est un très bon film. Le film du Vorso, je crois.
Écoutez, merci du conseil. De quoi voulez-vous parler avec les auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui ?
J'ai écouté la chronique tout à l'heure de Laurent Tessier. Ce que dit Rima Hassan est sidérant, quand même. On est dans un vrai discours de guerre civile, état raciste, état policier. Et c'est extraordinaire cette petite musique parce qu'en parallèle, vous avez peut-être vu l'émission Quotidien de la chaîne du groupe Bouygues avec Louis Catelat qui recevait l'autre jour la jeune femme qui était à la Star Academy.
Ebony. Ouais.
Elle s'appelle Ebony et qui lui explique qu'elle n'a pas gagné parce que la France est raciste. Donc c'est sur une chaîne du groupe Bouygues. Avec Rodolphe Belmer, d'ailleurs, qui donnait une interview ces jours-ci pour expliquer, patron de TF1, pour dire qu'il ne façonne pas du tout l'opinion publique et que c'est pas la mission de TF1, c'est pas non plus la mission, dit-il, de souffler sur les braises. Vous savez, j'aime beaucoup cette expression, c'est-à-dire, je veux pas jeter de l'huile sur le feu. Mais lorsqu'on dit je veux pas jeter de l'huile sur le feu, on reconnaît qu'il y a le feu. Donc, cette expression me fait toujours sourire. Ah ben non, on ne veut pas, nous... Mais alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre métier? C'est de décrire la réalité? Et effectivement, c'est très intéressant. On est dans un combat culturel, manifestement, dans les médias. Donc, vous avez des médias dits mainstream, ou des médias qui ne refusent de voir les choses, ou qui disent, on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Alors, ça veut dire quoi, jeter de l'huile sur le feu? Ce qui s'est passé, par exemple, hier soir, on en parle ou on n'en parle pas? Les débordements, notamment à Paris, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, entre le Sénégal et le Maroc. Il y a eu des débordements importants. Bon. C'est des jeunes gens qui sont sur le sol de France et manifestement qui ont envie d'exulter et de montrer leur joie ou leur colère d'ailleurs. Et sur un match qui s'est déroulé non pas sur le territoire de France, ni même en Europe, ni même sur notre continent, mais en Afrique. Bon. Donc forcément, c'est une conséquence de l'immigration. Bon. Donc on en parle ou on n'en parle pas? C'est jeter de l'huile sur le feu que de souligner qu'il y a ces débordements ou pas? Et vous avez d'autres médias, effectivement, et c'était le cas de TF1, en l'occurrence. Et non seulement ça, mais ils vont beaucoup plus loin, puisque ce monsieur Louis Catelat, que j'écoute, que je ne connaissais pas, qui est chroniqueur de l'émission Quotidien, il dit « Vous auriez gagné, madame, si la France n'était pas raciste. » Et tout ça passe crème sur un plateau de télévision. Je vous assure, en fait, ce qui se passe est assez inquiétant. Assez inquiétant.
Pascal Pro, c'est deux rendez-vous par jour, vous les connaissez, il vous attend nombreux à l'antenne. N'hésitez pas, le standard vous est grand ouvert, Anissa Dadi. On rappelle le numéro.
Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé pour dialoguer avec Pascal Pro de 16h à 18h, tous les jours sur Europe 1.
La revue de presse sur Europe 1 avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec la faillite des élites, rien que ça.
Dans quelques années, lorsque des historiens se pencheront sur la chute de nos sociétés occidentales à la manière d'un Marc Bloch, ils s'interrogeront sans doute sur l'étrange défaite de nos dirigeants. Ce qu'ils découvriront, ce qu'ils dénonceront, ce ne sera pas un défaut de formation. Nos responsables politiques sont généralement des têtes bien faites. Ils ne dénonceront pas non plus des erreurs de prévision, des analyses erronées, non. Les armoires des ministères sont remplies de rapports où tout est dit, écrit noir sur blanc. Ce qui explique l'impasse dans laquelle nos élites nous enfoncent est l'absence d'une qualité qui ne s'apprend pas, qui ne s'achète pas, c'est le courage. La crise du courage, c'est le titre de l'édito de l'Opinion ce matin. L'épilogue du débat budgétaire qui s'annonce, explique Gauthier Vaillant, restera et pour longtemps le symbole du manque de courage politique. Et cette lâcheté semble assez largement répartie. Manque de courage de Sébastien Lecornu d'abord, qui ayant promis de renoncer au 49-3 et de ne pas endosser n'importe quoi, s'apprête à endosser n'importe quoi avec un 49-3. Manque de courage de la droite, ensuite, qui ayant exclu par principe l'option de la censure, s'est lié les mains et n'ose même plus protester contre les concessions faites au PS. Manque du courage du bloc central, enfin, qui a résolu tous les dilemmes en adoptant le bien commode « mieux vaut un mauvais budget que pas de budget du tout ».
Mais apparemment, Olivier, on peut manquer de courage et garder le sens de l'humour. Hein.
Oui, c'est ce que l'on découvre effectivement dans Les Échos. Le quotidien économique a effectivement reçu une lettre du Premier ministre à l'adresse des dindons de cette farce budgétaire, les entreprises, car c'est elles qui vont payer la facture. Cette lettre, qui aura peut-être en fin d'année le prix de l'humour politique, Les Échos n'osent même pas la publier nextinso. L'exégèse qu'ils en font, personne du journal n'ose même la signer. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, c'est comme ça que commence la bafouille. Votre première attente était la visibilité. Ce message a été entendu. Sic. Suit la douloureuse et les larmes de crocodile. Dans un contexte budgétaire contraint, il a fallu choisir au détriment, malheureusement, de la baisse de la CVAE, tu parles. Pour les très grandes entreprises, poursuit le Premier ministre, un peu ragaillardi, le gouvernement reprend le barème arrêté en 2025. Là, il faut comprendre que la surtaxe décidée l'an passé, et qui ne devait s'appliquer qu'une seule fois, c'était promis, juré, craché et reconduite. Cet argent contribuera à abonder le budget de la défense, ajoute Lecornu. Avant de conclure, c'est une expression concrète de leur patriotisme économique. Et nous les en remercierons. Les entrepreneurs apprécieront. Oui. Non seulement on leur fait les poches, mais en plus, on se paie leur tête.
Mais apparemment, le pire est à venir, Olivier.
Oui, parce que le pire, c'est que le déficit va exploser. Les Échos ont aussi fait les comptes. Les mesures annoncées pour complaire aux socialistes et sauver les 34 ministres de la censure vont s'élever à 8 milliards d'euros, affirme Stéphane Loignon. Le déficit en fin d'année devrait donc approcher les 5,5%. Mais l'essentiel est sauf pour le Premier ministre. Le gouvernement ne sautera pas, alors d'aucuns penseront peut-être que tout cela est cher payé. Le calcul est simple. 8 milliards pour sauver 34 ministres, cela fait 235 284 118 euros par membre du gouvernement qui garde son portefeuille. Voilà le prix du manque de courage. Politique.
On abandonne la politique, Olivier Delagarde, pour le sport.
Oui, et je vous préviens, ça n'est pas beaucoup plus reluisant. Parce qu'hier soir se déroulait la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la fameuse CAN. Et si vous n'avez pas regardé le match, vous avez apparemment loupé un des grands scandales de l'histoire du foot, rien de moins. Vainqueur par KO, c'est le titre de l'équipe, KO, C-H-A-O-S. Le quotidien sportif évoque pudiquement en une de lourds incidents. En fait, tout avait été bien organisé par les Marocains qui accueillaient la compétition et qui s'étaient assurés en amont de la finale la bienveillance de l'arbitrage, ce qui s'est quand même un petit peu trop vu pendant le match. Mais le pire, c'est que cela n'a pas suffi. Malgré un pénalty imaginaire accordé aux Marocains et loupé de manière spectaculaire par la vedette de l'équipe, c'est le Sénégal qui l'a emporté. Dans l'équipe, Vincent Deluc préfère pudiquement ne se souvenir que d'une émotion folle, d'un miracle et d'une malédiction. Mais sur le site du Figaro, Sébastien Vaux, lui, se fiche bien de fâcher le supporter marocain. Il parle d'un consternant spectacle plombé par une décision arbitrale scandaleuse. Cette finale a pris une tournure cauchemardesque, entrant tristement et honteusement dans l'histoire de ce sport. Et vive le foot! Allez, on va terminer sur une note quand même plus joyeuse. On va terminer en fanfare. Mais oui, une fanfare.
Ah oui,
la chose a échappé à tout le monde, sauf à la Croix. Aujourd'hui débute la semaine du son de l'UNESCO, qui s'achèvera par le week-end des orchestres. Il s'agit de valoriser la pratique collective de la musique. Alors, on n'est pas très bon en France. Hein. Moins de 5% de la population joue d'un instrument. Ah. Or, c'est essentiel, affirme Nathalie Lacube, dans les périodes de tension sociale. Celle que nous vivons, c'est très important de pouvoir jouer collectif. S'exprimer par la musique permet d'être en relation, d'écouter l'autre, de le comprendre. Anissa, bref, ce n'est pas nouveau. Mais à la différence de la politique et du football, la musique adoucit les mœurs.
N'est-ce pas Philippe Ball hein, qui joue trompette?
Non, moi je joue de la guitare et du piano.
Guitare-piano.
Ah,
voilà.
C'est bien.
Et votre fils est un mélomane déjà incroyable. Merci beaucoup, la revue de presse signée Olivier Delagarde. Je vous souhaite une excellente journée. L'heure des pros dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France.
Wow. Hey, taxi.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple New York, à partir de 449 euros au départ de Paris.
S'envoler en toute élégance. Air France.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 9 au 22 mars 2026 et du 7 septembre au 11 octobre 2026.
Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. Pour bien démarrer l'année, GMF vous offre 2 mois de cotisation pour la souscription d'un contrat d'assurance auto, et ce, jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
Préparez-vous à voir toujours plus de matchs, toujours plus de buts incroyables, toujours plus de clubs réunis pour un même frisson. Avec Canal+, préparez-vous à vivre toujours plus d'Europe. Retrouvez l'intégralité de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal+. Avec demain à 21h, Sporting Portugal, Paris SG sur Canal+ Foot et Real Madrid AS Monaco sur Canal+ Sport. Suivi mercredi à 21h d'Olympique de Marseille, Liverpool sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Vos déplacements professionnels ne devraient jamais être un casse-tête. Avec Selectour Affaires, le voyage d'affaires devient un levier de performance. Nous construisons avec vous une politique voyage sur mesure. Coûts optimisés, empreinte carbone maîtrisée, sécurité et bien-être des voyageurs. Des consultants dédiés vous accompagnent à chaque étape, de la PME au grand compte. Nos solutions s'adaptent à vos besoins. Selectour Affaires, 50 ans d'expertise au service de vos déplacements professionnels. Rendez-vous sur selectour-affaires.com.
Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur Europe 1, l'heure des pros jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. On recevra ce matin Franz-Olivier Gisbert, vivement hier, Voyage dans la France d'avant, c'est effectivement un livre qui nous a beaucoup intéressé, puis il y a beaucoup d'actualités comme